Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work édition LinkedIn Audio. Comme toutes les semaines, l'équipe des Happy Workers et moi-même avons débattu d'un sujet. Pour cette semaine, nous avons décidé de parler des entretiens de recrutement et des entretiens avec les managers dans une moindre mesure. Comment réussir un entretien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Nous en avons débattu pendant une heure et c'était, comme d'habitude, extrêmement intéressant. Et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que j'ai eu à le faire. Bonne écoute! Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là comme tous les jeudis à 18h ou les vendredis en fonction des plannings des uns et des autres pour un débat consacré à l'entretien de recrutement et aux entretiens en général. Et je pensais beaucoup aux entretiens avec les managers. Donc, comme je le dis, cette room est enregistrée, mais si vous êtes en live, vous pouvez tout à fait m'envoyer des messages en direct sur LinkedIn pour poser vos questions, pour faire des remarques, pour mettre en avant vos interventions, parce que cette room, c'est aussi la vôtre. Alors, je vais commencer par présenter tout d'abord mes chers Happy Workers. J'adore le dire avec l'accent, comme ça, ça fait je me la pète. Nous avons donc Béatrice Bretonnier, qui a été DRH dans un très grand groupe pendant 30 ans. Alors, je vous rassure, elle a 20 ans d'âge mental à peu près, comme moi. Et il y a 4 ans, elle a créé son entreprise. Elle est aujourd'hui consultante formatrice sur des domaines relevant de la diversité et de l'inclusion. Et elle est aussi coach professionnel pour des managers et des dirigeants. Nous avons Léna Aka, neuroatypique, passionnée de sciences cognitives. Elle aide ses clients, oui, puisqu'on l'appelle coach Léna, ses clients professionnels et les organisations à réussir leur projet de transformation. Et elle remet l'humain à sa juste place au cœur de toutes les stratégies. Nous avons Géraldine Jakowski, responsable marketing communication chez Prium et surtout créatrice du concept Balance ton héroïne, dont vous allez entendre parler très 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 bientôt. Nous avons l'ami Hervé Charles qui est fondateur et dirigeant du cabinet Performance RH. Son métier, c'est d'anticiper et prévenir les risques psychosociaux dans les entreprises, d'accompagner les collaborateurs, structures dans l'amélioration des qualités de vie et de conditions au travail. Prévenir les risques de santé, en résumé. Et last but not least, d'abord... Non, pas last but not least, parce que je vais d'abord présenter notre stagiaire, Alexandre. Alexandre qui nous fait l'amitié de venir de temps en temps et qui a toujours des réflexions extrêmement intéressantes. Et nous avons, last but not least, Marjorie Derriac, celle que j'appelle la cousine. Donc la cousine est au Québec et elle est talent lead chez DeepLight. Et donc elle nous donne toujours un regard assez intéressant sur ce qui se passe outre-Atlantique. Les amis, donc voilà le débat. Comment réussir son entretien d'embauche ou/et son entretien avec son manager. Je trouve que ce sujet est extrêmement intéressant parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer de façon assez forte. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune diplômé, on me disait « t'es obligé d'y aller en costume cravate, c'est hyper impératif » parce qu'on était un peu en chien pour trouver un boulot. Quand on était jeune diplômé, même d'une grande école, il y avait un chômage de masse absolument monstrueux. Donc, on devait un peu rentrer dans le moule. Et il y a une phrase, alors celles et ceux qui me connaissent savent que je la dis de temps en temps, « À force de vouloir rentrer dans le moule, tu risques de passer pour une tarte. » Et je trouve ça extrêmement juste, mais je sais qu'il y a débat sur ces questions-là. En tout cas, peut-être qu'on va faire la différence entre l'entretien d'embauche et l'entretien managérial. Et je vais commencer peut-être en premier, et là... Je vous assure, les amis dans l'audience, ça me fait rire parce que les personnes se demandent sur le stage sur qui ça va tomber. Alors avant de commencer, je salue Philippe Elie qui vient d'arriver sur le stage et qui va nous faire le plaisir d'illustrer ce débat. Donc allez sur son profil pour voir les dessins qu'il fait en live pour illustrer notre débat. Salut Philippe Elie.
Hello. Merci de m'accueillir.
Mais avec allez, grand, à très vite. Avec grand plaisir. Donc, allez suivre son profil et ça sera très, très bien, vous allez voir. Donc, sur qui ça va tomber en premier? Eh bien, ma chère Béatrice, c'est sur toi.
J'en étais sûre.
Ah, tu l'as senti venir, hein?
Je l'ai senti.
Ouais.
L'intuition.
Ouais, mais c'est ça. Alors, dis-moi.
Et alors?
Non, mais
donc, du coup.
Bah, du coup, est-ce que le côté faut rentrer dans le moule, quels que soient nos entretiens? Est-ce qu'il faut jouer un personnage? Est-ce qu'il faut devenir un peu schizophrénique? Par exemple, si je vais passer un entretien, et, est-ce que je dois mettre une cravate, par exemple?
Bah alors, tu fais bien comme tu veux, mais je pense qu'il y a, les deux types d'entretiens sont très différents. L'entretien de recrutement, je connais pas encore l'entreprise, je la connais uniquement parce que j'ai regardé son site, parce que j'ai répondu à une annonce, j'ai vu comment l'annonce était rédigée, etc. Bon, et puis l'entretien où je suis déjà salarié et où là j'ai un rendez-vous avec mon manager, par exemple, ou bien moi-même je suis manager et j'ai rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe et un entretien. On peut tout mettre derrière le mot entretien, hein. Ça peut être un entretien qui peut être compliqué, un entretien, j'en sais rien, banal, ça peut être un entretien annuel, enfin bon. Donc, c'est très différent. Pour moi, les deux sont très différents. Et j'aurais tendance à dire que peut-être, alors on n'est pas toujours d'accord hein, là-dessus, mais peut-être que oui, selon l'entreprise où tu candidates, eh ben, c'est bien de mettre une cravate, peut-être. Quand tu es déjà dans l'entreprise, ben, en tout cas, je crois plus que tu te poses cette question-là de savoir comment t'habiller.
Ouais, mais alors moi je pense qu'il y a un truc en commun dans tous les entretiens, que ça soit avec son manager ou un entretien de recrutement, c'est d'avoir toujours en tête que la première impression est la plus importante. La première impression qu'on donne. Coach Léna, toi tu conseillerais quoi? Moi je suis ton client et je dis voilà, j'ai un entretien demain avec mon manager. Donc là vraiment dans le cadre de j'ai un entretien avec mon manager. Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je dois préparer? Est-ce que je viens comme je suis d'habitude? Est-ce que comment on fait?
Alors, je te rejoins sur le fait qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc, il faut être comme on est, mais pas trop, j'ai envie de dire.
Et tu sais que je rebondis sur ce que tu dis, même dans le cadre, je trouve, d'un entretien avec son manager. Quand j'étais manager, parfois il y avait des gens qui passaient un entretien annuel avec moi de mon équipe, et ben la première impression, même pour ça, elle est importante. Il y a une différence entre quelqu'un qui va arriver en faisant un grand sourire et en donnant le sentiment d'avoir préparé, et l'autre qui va arriver en traînant les pieds et en tirant la gueule. Donc la première impression dont tu parles, je pense qu'elle se fait à chaque entretien, en fait.
Bah, complètement, et je pense que quel que soit l'entretien, qu'on parle de l'entretien d'embauche ou d'un entretien avec son manager, on est toujours un peu dans une opération séduction. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester soi-même, mais pas trop, c'est-à-dire soi-même, mais pas trop non plus. Il faut toujours faire attention à la façon dont on se présente, à la gestuelle, qui est très importante, parfois plus importante que les mots qu'on va utiliser. Faire attention à l'habillement, etc. Et effectivement, tu as touché un point qui, pour moi, est la condition sine qua non de la réussite de tout entretien, c'est la préparation. Et on ne vient pas non préparé à un entretien quel qu'il soit. Donc toujours être bien préparé, être sûr de soi, en confiance, savoir voilà plus ou moins ce qu'on va raconter, pouvoir parler de soi de façon synthétique, concise ou du sujet pour lequel on est là. Je pense que c'est important d'être préparé, c'est 80% du travail.
Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que je viens de recevoir un message de Constantin qui dit « Après 5 ans passés à l'étranger, je reviens fin mai définitivement en France et je passe actuellement des entretiens d'embauche en masse et la RH à la française me fait un peu peur. » Alors là, j'aimerais bien poser la question à Marjorie, donc la cousine outre-Atlantique. Est-ce que c'est si différent que ça, un entretien au Québec et un entretien en France?
Oui, je pense que c'est différent parce que en fait, j'ai très bien compris ce message que tu viens de recevoir. Je pense que c'est différent dans le sens où déjà, tu vois tout à l'heure l'exemple que tu donnais, c'est très différent quelqu'un qui va faire un sourire ou quelqu'un qui fait la gueule. Ben, en fait, moi, je me suis dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire la gueule en allant à un entretien d'embauche ou un meeting avec sa gestionnaire.
Mais pourquoi vous êtes particulièrement souriant donc, ou c'est juste c'est l'éducation qui est comme ça?
Je sais pas. Bah...
Et non mais.
Ouais, écoute, c'est C'est honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas vécu ça. Bah, je pense qu'en fait, les émotions, on les exprime pas de la même manière.
En fait, Marjorie, j'ai compris, tu es un sous-marin de l'Office du tourisme québécois qui est là pour nous faire tous envie de migrer au Québec.
Ouais, non, mais c'est... Bah, après, je dis pas que, tu sais... Enfin, tout le monde a des émotions au travail, comme partout, on est des êtres humains. Mais je pense que oui, il y a quand même... On se positionne de manière différente au travail. Et donc, on sait que ça va être... On est plus basé sur... Les rencontres, c'est plus de la discussion, en fait, que quelque chose qui doit être comme stressant ou qui va générer du stress. Ça peut tout à fait générer du stress, ça dépend dans quelle situation on est. Mais je pense qu'on se positionne de manière différente et en fait, c'est ça, on est plus dans comme la discussion, puis...
Oui, oh, plus informel, en fait.
Comme ça que je vois.
D'accord.
Ouais, je pense qu'il y a ce côté-là.
Ouais, alors que en France, alors, Géraldine, c'est peut-être à toi que je vais demander... J'ai l'impression qu'effectivement, et là, on va peut-être parler plus des entretiens d'embauche. Alors, avant, je fais une petite parenthèse totalement personnelle. J'ai mon neveu Antoine qui est à l'écoute, donc j'ai une pression de dingue. Il y a la famille qui écoute en plus, donc c'est terrible. Ma chère Géraldine, est-ce que tu as le sentiment que c'est effectivement très formaté ou il y a une évolution vers plus de ce que nous a décrit Marjorie, plus un côté discussion? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des domaines comme par exemple la banque, le conseil, tout ça, où ça n'a pas tellement évolué.
C'est marrant que tu parles de banque, puisque mon fils de 20 ans vient de faire un stage dans une banque durant 2 mois. Et en fait, c'est vrai que pour la tenue vestimentaire, c'était vraiment pour nous important qu'il puisse porter un costume, en fait. Ce que nous ne portons plus quasiment plus dans des entreprises, des entreprises de services ou autres entreprises. Mais oui, c'est vrai que je pense que dans certains domaines, ce que tu as cité, c'est encore très formaté. Quoi qu'il en soit, pour moi, un entretien de recrutement, ça se prépare, quel qu'il soit. Que ce soit dans une start-up, que ce soit dans une PME, un grand groupe, un entretien, on le prépare.
Mais même un entretien avec son manager, Géraldine, dans l'absolu.
Oui, alors justement, moi, je le vis ça. C'est-à-dire qu'au quotidien, je peux avoir des entretiens, des discussions, comme le disait Marjorie, informelles, où on parle du tout venant, de ce qui se passe, de l'actualité, en fait. Et puis, tous les mois, maintenant, j'ai un rendez-vous où là, vraiment, on fait le point. Mais déjà, d'une, ce point-là, il est essentiel pour moi parce qu'en fait, dans mon flux et flot d'activité, j'ai pas le temps de faire ce point-là, d'avoir vraiment un vrai regard sur toute mon activité. Et en fait, je trouve ça très positif de pouvoir présenter ce qu'on a accompli à ses boss. Et pour moi, c'est positif, surtout quand tu as des boss qui vont dans ton sens, qui sont très enthousiastes par rapport à tout ce que tu mets en place. Mais oui, préparer son entretien quand on rencontre ses managers, parce que ça veut dire qu'on a une connaissance parfaite de ce qu'on fait et de ses résultats. Et voilà, ouais, c'est super important. Et avec une présentation, quelques données, quelques chiffres, pour vraiment, en fait, je dirais pas prendre le lead sur l'échange, mais presque, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, il y a une remarque d'Olivier qui m'a envoyé, donc je rappelle que vous pouvez m'envoyer des messages sur mon LinkedIn pour participer au débat. Olivier qui dit: j'estime que c'est au manager de donner le ton sérieux ou non selon le sujet, et la force de l'employé est d'être suffisamment préparé pour s'adapter. Ça, c'est un super bon conseil. Et ça, je l'utilisais pendant tous mes entretiens, à l'époque où je passais des entretiens. C'est un peu l'effet miroir. C'est par exemple, si la personne vous propose un café, prenez un café. Si lui en prend un. Il va avoir des tics verbaux, parfois, de reprendre certains de ces tics-là, sans que ça soit non plus totalement ridicule, mais effectivement, si la personne est en train de vous voyer, c'est assez malvenu de le tutoyer. L'inverse étant vrai. Si la personne vous tutoie, il faut tout de suite la tutoyer. Bref, il faut vraiment être dans l'écoute et faire regarder la personne dans quel état elle est. Est-ce qu'elle est souriante, pas souriante? Est-ce qu'elle a l'air de bonne humeur, pas de bonne humeur, etc., etc. Et là, j'ai posé la question à Hervé Charles parce qu'il y a Franck qui m'envoie un message très intéressant, qui me dit être super à l'aise dans les entretiens de recrutement et plutôt bon dans les entretiens de recrutement. Mais par contre, ça le stresse vachement, son entretien annuel. Est-ce que tu aurais un conseil, Hervé Charles, pour Franck?
Un conseil technique, non. Alors le stress, il fait partie en fait des entretiens. Et heureusement qu'on stresse tous un minimum parce que ce qui nous donne un petit coup punch au départ, très sincèrement. Et ça nous aide. Ce qui est plus dangereux, c'est quand on ne stresse pas du tout. Maintenant, pour préparer ces entretiens, j'allais dire, enfin, tout va résider dans la préparation. Si on est à l'aise, même s'il y a de petits coups de stress, ben, sincèrement, on est prêt, on peut rebondir, on peut interagir avec l'interlocuteur. Et dans ce cas-là, effectivement, ça fait baisser le stress.
Ouais, donc en fait, le conseil, c'est plus tu prépares que ce soit un entretien annuel ou un entretien de recrutement, plus tu vas faire baisser ton niveau de stress parce que tu auras le sentiment de maîtriser le sujet, en fait.
Tout se prépare. Et la preuve, c'est que sur les entretiens de recrutement, c'est plus de 90% des gens consultent les sites des entreprises. Donc, ils n'arrivent pas au hasard. Ils ne postulent pas suite à une annonce. Et ils vont effectivement s'informer, se renseigner sur l'entreprise et sur ses valeurs et sur le sens. Et forcément, et on revient sur les vêtements, sur la manière d'être aussi, ça va être adapté et en adéquation. Tout se prépare. Un entretien, quel qu'il soit, se prépare. On n'y va pas, entre guillemets, avec les mains dans les poches et on va bien voir ce qui se passe.
Ouais, et justement, là, on a un message de Nouma qui va passer visiblement son premier entretien pour une alternance demain et elle est stressée à cause de la concurrence. Et préparer son entretien, le premier conseil que je donnerais, c'est d'aller voir, comme le disait Géraldine, le site web de l'entreprise, d'aller voir les valeurs de l'entreprise. Et dans un entretien, ce qui est important, c'est de montrer très concrètement qu'on désire l'entreprise. Moi, je me rappellerai toujours cet entretien que j'avais fait passer à quelqu'un à l'époque où j'étais chez TF1. Et je pose cette question toute bête à la personne. Pourquoi est-ce que vous voulez rentrer chez TF1? Et là, il me fait... c'est une belle boîte. Je fais, non, mais précisément, par exemple, est-ce que vous regardez la télé? Ah non, moi, je ne regarde pas la télé. Bah, comment ça, vous ne regardez pas la télé? Non, mais attendez, c'est abrutissant. Donc, autant vous dire que je n'ai pas été hyper passionné par cette personne. Béatrice, je voulais te poser cette question sur la préparation. Est-ce que c'est, comme je le dis, vraiment important de se sentir désiré? Pour moi, et là, c'est pour répondre à Nouma qui stresse. Plus elle préparera, plus elle pourra donner des exemples de valeurs qui l'intéressent dans l'entreprise, dans l'activité. Et c'est un énorme différence, non ?
Oui, je pense que c'est très important. Alors, je suis sûre que ça va bien se passer, votre entretien. Je pense que Gaëlle parlait tout à l'heure des vêtements, de la cravate, etc. Je ne sais pas, peut-être vous mettrez une cravate.
Non, c'est en distanciel son entretien. Elle stresse un petit peu.
Mais on peut mettre une cravate aussi distancielle.
Oui, mais c'est une femme.
Oui, mais elle peut mettre une cravate aussi.
Tout à fait.
J'attendais que tu dises ça. Bon, oui, alors donc, en fait, le point, c'est en effet, quand on parlait du site, de l'entreprise, moi, je vous suggère aussi de regarder sur le site les mots qui sont utilisés, la manière dont le site est rédigé. Est-ce que comment sont les phrases? Est-ce que les phrases sont longues? Est-ce qu'il y a des mots qui reviennent? Et donc c'est sur le même mode de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un peu se mettre en effet miroir. En fait, la personne qui est en face, elle va avoir l'impression de plus vite vous connaître et que vous serez plus vite adapté dans l'entreprise si vous utilisez un vocabulaire qui est un vocabulaire commun à celui de l'entreprise avec des mots similaires. Donc, je pense qu'aller voir sur le site, c'est toujours une bonne idée. Les idées de couleurs, les idées de mots différents, de vocabulaire. Je pense que ça peut vraiment aider, ça, quand on prépare l'entretien.
Ouais, et il y a Olivier qui nous rappelle quelque chose sur la messagerie, de ne pas oublier d'aller voir le LinkedIn de l'entreprise. Parce que là, il y a des news, il y a des choses nouvelles, et on voit les priorités de l'entreprise. Il faut vraiment montrer qu'on s'est intéressé à l'entreprise avant de passer l'entretien. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. Il faut considérer un entretien. C'est un petit peu comme les sites de rencontres. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur des sites de rencontres et que vous avez rencontré des gens. Enfin, j'imagine que dans votre vie, vous avez déjà séduit quelqu'un. Bah, c'est un peu pareil. Si on veut séduire, il faut quand même s'intéresser à minima à la personne en face. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des rendez-vous galants où la personne ne faisait que parler d'elle. J'ai beau avoir une bonne écoute, à un moment, je me suis dit, mais à quel moment elle va me poser une question sur moi, en fait? Donc, c'est important de montrer à l'entreprise et au manager qu'on s'intéresse à l'entreprise. Et je vais peut-être demander à Léna, mais vous pouvez toutes et tous réagir sur le stage. Il y a Mira qui pose une question qui est assez intéressante. Qu'est-ce qu'on répond à un recruteur qui pose deux questions? parle-moi de toi. Donc ça, je pense que c'est assez simple la réponse. Donc ça ne va pas être celle-là sur laquelle je vais te demander, Léna, de réagir, parce que parle-moi de toi, bah, il faut parler de soi et dire bah, qui je suis, mes valeurs, mes motivations, ce que j'ai déjà fait. N'oubliez pas de parler de vos passions, parce que les passions, c'est aussi quelque chose d'important. Un entretien professionnel, dites-vous que si vous y êtes, vous avez les compétences techniques pour y être. On s'en fout un petit peu de savoir que vous êtes un dieu en Excel, en PowerPoint ou je sais quel logiciel. Par contre, de savoir que bah, vous êtes quelqu'un de créatif, et la preuve, c'est que vous faites partie de je sais pas, d'une association de peinture, je ne sais pas. N'hésitez pas à parler de vos passions. Mais la deuxième question, Léna, qu'est-ce que tu répondrais à « qu'attends-tu de nous ?»
Alors, juste une petite parenthèse, c'est pas si évident parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à bien répondre à la question parlez-nous de vous. Parce que les gens ont tendance à réciter un peu chronologiquement leur CV, et effectivement, c'est pas du tout ce qu'on attend en tant que recruteur. Donc, je ferme la parenthèse. J'en ouvre une autre. Je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est très pertinent, l'effet miroir. Moi, je voulais parler du biais de sympathie. Et vous avez vu, enfin, souvent dans la vie, on a tendance à accorder plus de choses à des gens qu'on trouve sympathiques. Ça veut pas dire forcément sourire bêtement ou quoi que ce soit. Quand on parle du biais de sympathie, c'est qu'on a tendance à vouloir recruter des gens qui nous ressemblent. Je sais plus qui le disait tout
ouais,
à l'heure.
Bien sûr.
Donc voilà, donc effectivement, adopter les codes de l'entreprise, qu'ils soient vestimentaires, qu'ils soient d'attitude, etc. Et pour répondre à ta deuxième question, est-ce que tu peux me la rappeler, s'il te plaît ? J'ai perdu mon fil.
Qu'attendez-vous de nous ?
Voilà, c'est une question qui est très pertinente. Et là, on va voir quelles sont les motivations réelles du candidat à rejoindre l'entreprise. Est-ce qu'il attend des choses du management ? Est-ce qu'il attend des tâches précises par rapport au poste, etc. ? Et c'est une question à laquelle il faut être préparé, je pense, et ça prouve que le candidat a bien préparé son entretien et a bien réfléchi. Il se projette sur le poste et ça va permettre aussi à l'employeur éventuellement de se projeter avec le candidat ou pas.
Oui, complètement, mais c'est vraiment comme une rencontre. Et il y a Ena qui pose une question à laquelle je vais répondre directement, parce que c'est, elle me dit, que pensez-vous des entreprises qui s'appuient plutôt sur le savoir-être que sur les compétences techniques? Bah, j'ai un peu le sentiment que c'est de plus en plus le cas, et heureusement, on s'intéresse de plus en plus aux soft skills qu'aux hard skills, parce que les hard skills, finalement, sur le CV, c'est bon, quoi. On sait que la personne a telle et telle compétence technique. Donc, on va s'intéresser à la personne, on va quand même recruter quelqu'un avec qui on va passer du temps. Moi, je me rappelle mes entretiens de recrutement que je faisais passer aux gens. Je me disais, mais est-ce que j'ai envie de voir la tête de cette personne tous les jours? Et ça va être des critères qui peuvent parfois sembler non professionnels, mais ça l'est, parce que les soft skills sont importantes. Marjorie, est-ce qu'il y a aussi ça au Québec, la tendance où les soft skills sont quand même beaucoup plus mis en avant et on y prête beaucoup plus d'attention qu'avant?
Oui. Il y a vraiment, nous, enfin, il y a quelque chose qu'on appelle comme le fit culturel. C'est quelque chose qui est très important. On commence à discuter un peu que ça devient fatigant, là, ce fit culturel aussi, parce que après tout le monde se ressemble, donc c'est pas hyper bon pour la diversité non plus. Mais c'est sûr que ça va être évalué lors de l'entretien. Je voulais juste revenir sur une petite chose aussi avant. On n'a pas parlé encore du descriptif de poste. Et moi, c'est quelque chose que je conseille tout le temps aux personnes. Bien sûr, il faut regarder l'entreprise, puis LinkedIn, puis un peu la culture d'entreprise. Mais le descriptif de poste est hyper important parce que moi, à chaque fois, ce que je conseille, c'est de donner des exemples qui reflètent ce qu'on attend en fait de la personne par rapport à ce poste.
Oui, de rassurer par rapport au wording et à la mission, bien sûr.
Ça va vraiment rassurer le recruteur, les personnes qu'il y a en face. Et c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté à faire. Ça reste souvent un petit peu flou quand on explique ses expériences. Et je pense que se rattacher au descriptif de poste et en amont d'ailleurs, essayer de trouver des exemples de ce qu'on a fait dans nos expériences en fait passées et rattacher au descriptif de poste, je pense que c'est vraiment un bon outil pour réussir son entretien.
Mais il y a Olivier d'ailleurs qui donne un conseil qui est très très bon, c'est de préparer un pitch avant et de faire le travail que tu dis là sur fiche de poste, en quoi mon expérience correspond à la fiche de poste. Et de limite, pas l'apprendre, parce qu'on ne va pas réciter, mais en tout cas, se préparer à ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais effectivement, c'est re-regarder la fiche de poste, c'est quelque chose de vraiment très important. Alors par contre, je vais faire une petite digression qui me semble pertinente maintenant. Et je vais demander à Géraldine probablement de rebondir dessus, puisque tu es concernée en tant que femme, ma chère Géraldine. Il y a des statistiques qui montrent qu'une femme ne va répondre à une annonce que si elle a, je crois, ses 90% des compétences demandées. Un homme, il s'en fout complètement. C'est-à-dire que si le poste l'intéresse, il n'a que 50%, il va répondre et c'est même pas peur. Donc moi, mon message, petit message discret, c'est « Mesdames, le syndrome de l'imposteur, il faut que vous travailliez dessus. » Et Géraldine, toi, est-ce que tu l'as déjà senti à titre personnel ou avec des gens, cette différence d'approche d'un entretien parce qu'on se dit oh, « il me manque une compétence, on va forcément me parler que de ça ».
Ouais, je l'ai déjà senti, ça, c'est intéressant que tu en parles. Non, en fait, la plupart des postes sur lesquels j'ai postulé dans ma carrière, en fait, il y avait une exigence sur l'anglais. Et je sais pas, mais mis à part les Français qui ont passé plusieurs années aux États-Unis ou à l'étranger, il y a peu de gens en France qui sont bilingues anglais. Et voilà, enfin, cette compétence de la langue anglaise là, c'est pas simple pour nous, je trouve. Et moi, en fait, ça a pu me freiner. Où j'ai pu passer à côté de poste à cause de l'anglais. Et du coup, je suis passée à côté de deux postes à cause de l'anglais. Et du coup, après, même si j'avais toutes les compétences, j'osais plus justement postuler à ce type de poste. Et ce qu'on se rend compte aussi, parce que j'ai fait aussi des missions où il y avait ce type de poste avec cette exigence de l'anglais, où en fait, en mission d'intérim, ça passe. On passe, on arrive sur ces postes. Et en fait, l'anglais, on ne le pratique pas beaucoup dans les faits. Et du coup, ça m'a confortée dans le fait que, exigeante forte ou être quasiment bilingue anglais, faut passer outre ça.
Et sinon, au niveau du... Oui. J'aimerais partager une phrase de Richard Branson, qui est très célèbre, donc le fondateur de Virgin, qui dit « Si pendant un entretien, on te demande si tu sais faire, si tu ne sais pas faire, dis que tu sais et apprends. » Donc, c'est une autre méthode encore un peu plus hardcore.
Alors oui, ça, tu vois, moi j'ai eu cette audace-là d'aller à des entretiens, sauf que je me souviens d'un entretien chez L'Oréal avec un manager Europe où vraiment, vraiment l'entretien s'était super bien passé, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait un match entre nous, hein, je reprends un petit peu, il y avait ce match entre nous et on sentait qu'on pouvait travailler ensemble, à l'époque c'était sur un poste d'assistante de direction. Et à la dernière minute, on allait se quitter et il m'a dit « Ah, j'ai oublié, est-ce qu'on peut poursuivre cet entretien en anglais ?» Et là, je n'ai pas eu l'audace de lui dire oui. Et je suis passée effectivement à côté de ce poste.
Ouais. À un moment, il y a des hard skills, c'est compliqué. Moi, par exemple, si je voulais faire ingénieur en fission nucléaire, j'aurais du mal à pipoter ce genre de compétences. Il y a quand même des compétences plus ou moins importantes dans le cadre d'un poste. Je pense que si on a 80% des hard skills... Ensuite, c'est du détail tout le reste. Donc, faut vraiment oser se lancer. J'aimerais rebondir sur deux messages. Un auquel je vais répondre, c'est Christian qui dit « Question à tous, votre conseil numéro 1 durant un entretien de recrutement. » Moi, j'en ai deux, en fait. C'est « Soyez vous-même et intéressez-vous à la personne qui est en face de vous. » Et je vais vous donner, alors j'avais fait tout un épisode là-dessus, la question qui tue pour réussir un entretien d'embauche. Est-ce que vous êtes prêt? Et Béatrice, après, j'ai une question à te poser, donc c'est à toi que je vais te demander, est-ce que tu es prête pour entendre cette question qui tue?
Oui, je suis prête.
Oh, c'est beau, quelle préparation. Non, parce que très souvent, un entretien, ça se finit par « est-ce que vous avez encore une question à nous poser ?» Et là, on est emmerdé, on se dit « putain, faut que je trouve quelque chose d'intelligent à dire. » Et très souvent, ça tombe complètement à plat. Et bien, la question que vous pouvez poser, c'est « ouais, j'ai une question, j'aimerais bien savoir ce qui vous motive pour travailler tous les jours pour cette entreprise. » Et ça a un impact génial, parce que si la personne a du mal à répondre, ça donne un indice comme quoi il ne faut peut-être pas prendre le poste. Mais surtout, la personne en face se dit « oh, dis donc, un candidat ou une candidate qui s'intéresse à moi. » Parce qu'encore une fois, un entretien de recrutement ou un entretien annuel, c'est une rencontre. On a envie de passer un bon moment parce qu'il y a un secret que les recruteurs ne vous disent pas. Les entretiens de recrutement, c'est chiant. Et avant de trouver la bonne personne, c'est long et on ne rencontre pas toujours des gens passionnants. Donc, soyez passionnants, montrez que vous intéressez à la personne en face. Et ça aura un gros impact. Alors, ma chère Béatrice, moi, j'aimerais te partager le message d'Evelyne parce que je pense que tu vas vraiment pouvoir lui répondre. Alors, elle dit « Bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que vos autres. » Donc, j'ai la réponse, Evelyne, Béatrice va bien, à minima. « J'aimerais savoir pourquoi on n'a pas le droit de dire en entretien que parfois, on manque de confiance en nous. Pourquoi c'est vu comme un défaut inacceptable alors que cela arrive aux meilleurs d'entre nous de douter ? Et en plus, c'est le corollaire de la capacité à se remettre en question. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est un défaut souvent rédhibitoire à cacher à tout prix. » Qu'est-ce que tu dirais, Béatrice, à Evelyne ?
Ben, moi, je ne pense pas que ce soit un défaut rédhibitoire à cacher à tout prix.
Ouais, moi, je suis d'accord.
Vraiment, je pense qu'en effet, vous avez tout à fait, enfin, dans la phrase qui a été donnée par la personne dont je n'ai pas entendu le prénom, Gaëlle.
Evelyne.
La personne qui t'a posé cette Evelyne. Voilà, Evelyne, moi, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est le fait de ne pas être totalement hyper assuré, hyper sûr de soi, etc. C'est aussi montrer que ben on est à l'écoute, qu'on se remet en question en effet. Et je pense que, enfin moi je me souviens quand je recrutais il y a très longtemps, mais quand je recrutais, je me rappelle que les gens qui arrivaient hyper assurés, hyper sûrs d'eux, ben, ceux-là j'étais assez désagréable avec eux. Et je dois le dire, hein, c'était parce que j'avais envie de voir jusqu'au bout. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'il est en train juste de me jouer un personnage? Et finalement, comment cet homme ou cette femme qui a l'air d'être tellement assuré va se retrouver quand je l'aurai recruté? Alors que quelqu'un qui n'arrivait pas très sûr, en étant, alors oui, souriant, bien sûr, parce que c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un qui sourit en face. Mais quand on est recruteur ou recruteuse, on peut tout à fait comprendre que quelqu'un soit stressé, que quelqu'un ait peur. Et simplement, moi, si je pouvais donner un petit tip pour essayer peut-être d'enlever un petit peu de peur, peut-être, c'est de se dire que le recruteur, il a besoin de vous. En fait, ouais. Le recruteur, il est, ou la recruteuse, est mis sous pression par les opérationnels, ou par le DRH, ou par le PDG, ou par le etc., etc., en fonction de l'entreprise, et a besoin de trouver le bon candidat ou la bonne candidate le plus vite possible. Donc, en fait, un recruteur, une recruteuse qui vous reçoit en entretien, déjà, ça veut dire que votre CV a passé le cap. Donc, en effet, je dirais, il n'y a plus besoin de prouver que vous avez ces compétences, puisqu'a priori, il a décidé que vous les avez, il a décidé de vous croire.
Donc, et il ne fait pas passer un entretien à une personne pour lui faire plaisir, c'est parce qu'il pense qu'elle a les compétences. Hein.
Exactement. Donc, a priori, il y a ça. Et du coup, je pense qu'il faut que vous disiez que lui, il a besoin de vous. Donc, rassurez-le, ce recruteur ou cette recruteuse, mais rassurez la personne. Vous, en tant que candidat, candidate, vous avez une force importante. Vous pouvez être la personne que ce recruteur attend désespérément.
Mais ce que je trouve en plus, moi je pense que Béatrice Evelyne, voilà. elle a donné un peu la réponse et tu l'as donné aussi. C'est si on lui dit quel est votre défaut et qu'elle répond le manque de confiance, mais par contre de ce manque de confiance, j'en tire du positif, ça fait partie de ma personnalité, mais par contre, ça veut dire que je suis plutôt prudente et que je vais analyser les choses et je vais prendre une décision parce que l'excès de confiance, c'est ça souvent qui mène aux grosses conneries. En fait. Donc, je pense qu'il faut positiver ce manque de confiance et en parler de façon naturelle. Ensuite, il y a une différence entre quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui va justement être plus peut-être précis dans ses analyses, peut-être prendre un tout petit peu plus de temps, mais il y a nettement moins de danger, et la personne qui est en peur, panique et paralysée surtout. Moi, j'ai jamais eu de collaborateur ou de collaboratrice comme ça, mais je dis toujours que le doute, mais c'est pas un défaut du tout, et le manque de confiance en soi, c'est pas déjà, c'est humain. La personne qui dit « je suis hyper sûr de moi tout le temps », comme tu le disais très justement, Béatrice, il y a un petit côté quand même arrogant qui fait que bon, ce n'est pas non plus quelque chose de très très positif. Marjorie, j'ai vu que tu plussais ce que disait Béatrice sur le manque de confiance en soi. Donc, tu es d'accord avec ce que disait Béatrice ?
Oui, je suis d'accord de manière globale, mais ouais. Je vais voir si je fais part de ma réflexion après, mais c'était surtout le fait que, en fait, il faut venir en confiance parce que on a déjà fait le premier pas, on est sélectionné pour faire un entretien en face à face ou à distance, peu importe. Mais c'est vraiment un premier pas, donc ça veut dire que sur le papier, vous fitez avec le besoin.
Ouais.
Donc, il faut vraiment se positionner comme ça, en fait, de OK, l'entreprise a besoin de moi. Oui, il y a de la concurrence, fine, mais il y a déjà eu un tri, un énorme tri qui a été fait à la base. Sur le papier, ça fit. Donc maintenant, je vais montrer ma personnalité, ma couleur, et on va s'aligner comme ça. Il faut vraiment comme prendre cette posture, parce que souvent, forcément, et encore plus sur le marché français, on a tendance à se dévaloriser parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que le marché n'est pas forcément très souple. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'offres disponibles, donc on se bat un petit peu pour avoir ce job-là. Mais je pense que ça va émaner, en fait, si on arrive avec le fait... Enfin, j'ai été sélectionnée, je correspond au poste, c'est un super premier pas. Maintenant, discutons, regardons comment on peut s'aligner. Je donne des exemples sur ce que j'ai fait après, puis après, ils font leur choix.
Mais il faut donner envie, en fait, à la personne. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai envie de voir cette personne à la machine à café tous les jours ? C'est tout bête, hein ? Mais donc, il ne faut pas hésiter à sourire. Alors, pardon, je t'ai interrompu, Marjorie.
Ouais. Non, c'est moi qui t'interromps pour le coup. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je suis d'accord dans le sens où, bien sûr, il faut être agréable, que ce soit une bonne discussion, puis qu'on soit travaillé avec la personne. Nous, il y a quelque chose qui est un peu qui ressort, enfin, qu'on entend depuis quelques années, ça s'appelle le beer test. Genre, est-ce que tu serais capable d'aller boire une bière après le travail avec cette personne ? Et en fait, on en revient un petit peu de ça aussi, parce que, bah, encore une fois, c'est qu'on n'est pas obligé d'aimer ses collègues à ce point-là et de vouloir aller boire une bière avec eux à la sortie du travail. Là. C'est pas...
ça, je suis d'accord avec toi.
La personne peut être tout à fait compétente sans qu'on ait envie de... Voilà,
mais moi, je ne parle pas de ça. Café, hein. Je ne parle pas d'aller boire des coups avec ou de devenir pote. On est des êtres humains. Et si tu prends 10 êtres humains, il y aura peut-être, si tu as du bol, une personne sur les 10 avec qui tu vas t'entendre très bien, qui va devenir un ami. Et tu auras très probablement une personne qui, dès qu'elle ouvre la bouche, elle t'énerve. Il y a des alchimies humaines qui sont comme ça. Moi, je ne parle pas de devenir pote, aller boire des coups. J'ai eu, quand j'ai récupéré des équipes, parfois, des collaborateurs et des collaboratrices qui me sortaient littéralement par les yeux, par leur comportement, leur façon de parler, leurs idées parfois. Donc, quand je recrutais pas des amis, mais par contre, je recrutais des gens avec qui je savais que dans des réunions, dans des éventuels conflits, des discussions, bah, je m'entendrais. Professionnellement, on s'entend. Tu vois ce que je veux dire ? On parle, je crois, de deux choses qui sont complémentaires. Il y a le côté qu'on revienne du « est-ce que je boirai une bière avec après le bureau ?» Ça, je suis bien content parce que ce n'est pas une obligation, effectivement. On n'a pas à être ami avec tout le monde. Par contre, il y a quand même des accointances entre les êtres humains qui sont assez inévitables, tu ne crois pas ? Marjorie ?
Oui, je l'ai. oui, tout à fait. Non, mais je pense que là, il y a aussi un peu une différence culturelle dans le sens où, tu sais, ici, on va aller boire une bière, même si t'es pas forcément ami. Enfin, d'accord. Toi, tu vas aller te décontracter après la job. Non, je plaisante, mais je veux dire juste, c'était juste pour remettre le fait que ça doit pas forcément être un critère de sélection non plus d'être à l'aise avec la personne au point de « oui, je suis OK pour aller boire un café ou une bière avec cette personne », puis ça va être comme un critère de sélection. Parce qu'une personne qui te ressemble, mais zéro, peut être tout à fait compétente pour un poste. Après, oui, il faut quand même qu'il y ait cette espèce de fit culturel pour être sûr qu'on ne va pas aller dans quelque chose qui va générer du risque ou du conflit.
Complètement.
Ça, c'est ce qu'il faut sécuriser.
Ouais. OK. Alors là, c'est coach Léna, tu vas avoir une question qui est complexe. Je te demande de te préparer psychologiquement à la question. Et c'est une vraie grosse, très grosse question qu'on n'a jamais traitée sur Happy Work, à ma connaissance. Et c'est Pierre qui nous la pose. Il nous demande, y a-t-il des conseils concernant la partie négociation du salaire ? Peut-on l'aborder en tant que candidat ou devons-nous laisser le ou les recruteurs le faire ? Y a-t-il des éléments à faire valoir sur ce sujet ? Donc, je te pose la question à toi, Léna, et je demanderai quand même à Béatrice en tant que DRH, je pense que tu as un vrai regard là-dessus. Léna, tu conseillerais quoi à Pierre si c'était ton client ?
Alors, excellente question. Le plus tôt on aborde cette question, le mieux c'est pour ne pas perdre de temps. Donc, en général, on n'attend pas 4-5 entretiens pour parler de salaire. En tout cas, connaître la fourchette. Déjà, quand on est recruteur, on doit avoir dès le départ une idée de la fourchette du candidat pour savoir si on poursuit avec lui, est-ce qu'il rentre dans un budget donné. Et côté candidat, en tout cas, moi, je conseille de ne pas avoir peur d'aborder, même si en France, c'est encore parfois très tabou, même si ça l'est de moins en moins, d'aborder cette question parce qu'on peut faire face à des déconvenus. Passer du temps, de l'énergie, pour un candidat, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Passer plusieurs entretiens pour finalement se voir entendre un salaire qui ne correspond pas du tout. Donc, par rapport à ça, je pense que c'est important d'en parler dès le départ, de pouvoir éventuellement justifier pourquoi est-ce qu'on souhaite cette rémunération, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant qui fait que on est à la hauteur, si je puis parler comme ça, de la rémunération qu'on demande. Et voilà, je pense que c'est un sujet important à aborder. Et tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que un des critères qui fait que bien souvent les femmes sont moins bien payées, c'est parce qu'elles n'osent pas négocier leur salaire.
Oui, il y a des études qui ont montré ça, tout à fait.
Voilà, elles acceptent tout de suite la première proposition faite. Or, les hommes arrivent à mieux négocier leur salaire et à se peut-être pas se surestimer, mais voir une estimation un peu à la hausse. Donc moi, je conseille aussi aux femmes de s'évaluer correctement, de ne pas se sous-évaluer et de réfléchir à ça, et surtout de bien connaître le marché dès le départ. C'est-à-dire que les candidats qui vous disent « Oh, ben moi, j'ai aucune idée, je ne sais pas, on verra bien », eh bien, c'est un peu aller droit dans le mur et puis prendre le risque de se voir proposer un salaire qui in fine, sera frustrant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Non, si, super bien, totalement. Et justement, je vais faire rebondir Béatrice là-dessus, parce que je pense qu'il est fondamental que chacun d'entre vous connaissent la fourchette de salaire de votre métier. Ça, ça se trouve très facilement sur Internet. Vous tapez salaire avec l'intitulé de votre métier et vous allez avoir des grilles de salaire qui existent pour vous faire une idée. Et ensuite, il ne s'agit pas de demander x4 ce que vous voulez, mais j'ai toujours eu tendance à me dire, dans une négociation, il faut toujours laisser venir. Je pense que, alors c'est là où Béatrice, il va y avoir une question. Ouais. Moi, j'ai toujours, quand on me demandait quelles sont vos exigences, je fais, mais quel est votre budget d'abord ? C'est, quelle est, vous, votre fourchette ? Et après, je disais ce que j'attendais. Bien souvent, le recruteur sait ce que vous gagnez au moment où vous passez l'entretien, mais il m'est arrivé de faire des négociations où j'ai fait des énormes augmentations, parce qu'encore une fois, recruter, c'est dur. Et si vous avez un profil que l'entreprise veut et qu'elle est en bonne santé, elle pourra faire des efforts. Toi, Béatrice, je te demande de reprendre ta casquette d'ancienne DRH, mais là, en l'occurrence aussi de coach, tu donnerais quoi comme conseil ?
Alors, en effet, de se renseigner sur les salaires liés au métier. Donc, évidemment, et ça, comme tu le disais, on le trouve facilement sur Internet. Hein, donc, je pense que ça, c'est très important, parce que quelquefois, on n'a aucune idée. Et on peut être mais alors totalement à côté, autant au-dessus qu'en dessous, en fait, finalement, donc c'est dommage. Après, moi, je ne le ferai pas ça au premier entretien. Donc, moi, je ne parlerai pas de mon salaire au premier entretien, ça c'est sûr. Peut-être je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Mm-hmm. Peut-être j'ai eu tort, mais bon. Mais par contre, en effet, ne pas attendre maintenant il y a souvent 3-4 entretiens ou plus. Donc, moi, je pense qu'à partir s'il y a un deuxième entretien, je pense que c'est important de dire. Je suis. Alors, oui, bien sûr, on entend souvent hein, que les femmes ont plus de mal à demander un salaire et à en parler. Je trouve que ça change beaucoup, ça, en ce moment. Il y a eu beaucoup de formations un peu spéciales pour aider des femmes qui pouvaient avoir du mal à demander un salaire, donc autant en profiter, j'allais dire, mais je suis pas sûre que ça soit beaucoup plus compliqué. Je pense que ça va dépendre vraiment du profil. Gaëlle, tu disais, si le poste est rare, si les compétences sont rares, plus exactement, forcément, on va être un peu en position de force quand on est candidat, parce que on a des compétences que d'autres n'ont pas. On le voit bien. Et puis après, je pense qu'il y a une question de d'équilibre. Et est-ce que cette entreprise-là aussi, en tant que candidat, moi, ça m'est arrivé une fois de baisser mon salaire parce que j'avais vraiment envie d'aller dans l'entreprise où j'étais. Et que je savais que sur le marché, c'était pas ridicule ce que l'employeur proposait, évidemment. Mais ça m'est arrivé. Et c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, moi, la priorité que j'avais mise à ce moment-là, c'était l'entreprise que je voulais intégrer. Et après, le salaire est remonté.
Mais là, Béatrice,
ça peut être aussi un choix.
En ce moment, on est plutôt sur une énorme tendance haussière des salaires parce que le chômage recule sur certaines catégories. Alors, à chaque fois, je me fais reprendre. Donc, je précise bien que le chômage ne recule pas pour tout le monde. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont moins de 40 ans, qui ont l'air d'avoir fait des études. En Ile-de-France, si tu as moins de 40 ans et que tu es à minima Bac plus 2, c'est le plein emploi. déjà. Et donc forcément, quand il y a pénurie de main-d'œuvre, ben, c'est l'offre et la demande, et les salaires vont plutôt vers le haut. Et j'entends beaucoup, beaucoup de dirigeants et de DRH qui sont quand même... Ils ont perdu un petit peu de leur pouvoir de négociation. Et ça, peut-être que Béatrice, on a moins connu ça quand on était sur le marché du travail.
Oui, oui, bien sûr que je l'ai moins connu, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr que là, il y a une... On en avait parlé, je pense, dans un précédent live. Oui, bien sûr qu'il y a, il y a un rééquilibrage de balance qui se fait, et c'est fort bien.
Et là, je vais m'adresser merci beaucoup, Béatrice, pardon. À Géraldine, avec ta casquette de marketeuse. Et on digresse un peu, mais pas tant que ça. C'est un message de Karen qui est destiné aux recruteurs et qui dit SVP, s'il vous plaît, pardon, dites aux recruteurs qui promettent de faire un retour, de le faire même si c'est négatif. Et ça, mais Karen, vous avez tellement raison. Géraldine, toi qui es experte de tout ce qui est justement image numérique, etc., etc., c'est catastrophique pour une entreprise quand elle ne fait même pas un retour négatif.
Oui, je vais tout à fait dans ton sens. Je veux dire, et ça, on le voit aussi sur LinkedIn, il y a des personnes qui recherchent un emploi et qui disent, s'il vous plaît, recruteur, mais répondez-nous. Et c'est la moindre des choses, et notamment pour une société, pour une marque, c'est la moindre des choses de répondre à chacune des candidatures, même si... Quand on regarde la partie offre d'emploi sur LinkedIn, qui est très bien faite, on voit forcément que sur certains postes, il y a 200 candidatures. Mais vous avez des outils d'automatisation aujourd'hui, ou je sais pas, il y a des outils d'emailing. Eh bien, on répond à toutes les candidatures. Et en plus, comme tu le disais, sur une partie de la population, il y a le plein emploi. Donc, la personne que je ne recrute pas aujourd'hui, elle peut potentiellement convenir pour un autre poste. Donc, en fait, moi, je pense que les RH aujourd'hui, et sans donner de leçons, bien sûr, doivent s'organiser pour se constituer un vivier de CV sur les gens qui ont postulé parce qu'ils aimaient l'entreprise, parce qu'ils aimaient la marque, parce qu'ils voulaient intégrer dans l'entreprise, pour se dire, bah tiens, à un moment donné, je vais aller chercher dans ce vivier, c'est-à-dire que là, j'ai des gens motivés qui veulent travailler avec moi, je vais aller chercher dans ce vivier. Et je vais ajouter autre chose, je fais une petite aparté, moi, je recrute une chargée de communication en alternance. Et il y a quelques mois, c'était un poste ouvert en CDI, qui n'est plus, je le précise. Et en fait, je suis dans le flot de mon activité, je n'ai pas le temps de rechercher. Il n'y a pas forcément de service RH chez moi, donc c'est moi qui devais chercher cette candidate. Et je regardais sur LinkedIn, et plutôt que de passer une annonce, c'est moi qui allais chercher les profils sur LinkedIn. Et à un moment donné, j'ai sélectionné, donc voilà, pour donner un petit peu le mode de fonctionnement, j'ai sélectionné 5 profils, j'ai retenu 3 candidates, et en fait, je me suis permise de les contacter directement sur LinkedIn et de les appeler. Et en fait, ce qui est bien pour moi, pour aller plus vite, c'est que j'ai fait un entretien téléphonique de 30 minutes pour voir vraiment si les candidates correspondaient, étaient motivées, et surtout si elles étaient disponibles. Et ensuite, j'ai rencontré une candidate, et là, lors de l'entretien, on était en train de mettre en place notre collaboration. Donc, je trouve ça intéressant aussi par rapport à cette pénurie des talents qui existe aujourd'hui en France, le fait de pouvoir accélérer le modèle de recrutement et de sortir du cadre, en fait, et d'aller un peu plus... Enfin, moi, c'est prise de contact directe avec les personnes qui ont le profil de ce que je recherche.
Oui, c'est clair. Mais alors, justement, on va rester un petit peu dans le côté marketing, parce qu'on va arriver là vers la fin de la room, donc on va arriver sur les petits tips additionnels. Et sur le côté marketing, moi, il y a un conseil que je donne toujours, mais alors que ce soit un entretien de recrutement ou un entretien avec son manager, c'est quand on sort de l'entretien, de faire juste un petit mail pour dire merci beaucoup de m'avoir reçu pour cet entretien de recrutement. C'est un entretien de recrutement. Je vous confirme ma motivation pour faire cet entretien. Ça peut vous sembler stupide de faire un mail comme ça, mais ça va vous prendre exactement 10 secondes. Et très peu de personnes le font. Très peu de personnes prennent le temps de confirmer votre intérêt après avoir rencontré la personne. Donc non seulement c'est poli, mais ça marque l'esprit du recruteur ou de la recruteuse. Donc c'est vraiment important, et quand c'est un entretien avec son manager, faire un petit mail récap en disant merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, et j'ai bien noté qu'on faisait ça, ça mange pas de pain et ça montre qu'on est impliqué, qu'on est professionnel. Enfin bref, n'oubliez jamais que l'entretien n'est jamais une finalité. C'est-à-dire que c'est à vous aussi d'être acteur pour entretenir la flamme de l'entretien. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent de cagole d'un coup. Ça m'a pris comme ça. On va faire notre... Ah maintenant, Alexandre est revenu. Je ne t'avais pas vu, mon cher Alexandre.
Je vous prie de m'excuser.
Pas de problème.
Je me suis fait happer par une personne qui avait besoin d'aide. Je te remercie.
Pas de problème. Tu arrives vers la fin, donc je ne te poserai pas la question tout de suite, je vais te laisser un peu écouter ce qui se passe. Mais Léna, si tu devais donner, pas ta recette, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des recettes pour réussir un entretien de recrutement ou avec son manager, mais allez, les deux, trois petits trucs spécial coach Léna, ça serait quoi ?
Spécial coach Léna. Je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est un petit peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Moi, je reste sur ce que je disais dès le départ. Rester soi-même, mais pas trop, dans le sens se préparer, se présenter du mieux possible. Ça reste de la séduction. Donc, ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller à un premier rencard mal fagoté. Donc, je pense que ça, c'est important. Avoir préparé autant le fond que la forme, y aller dans un bon état d'esprit, surtout un état d'esprit d'ouverture, se dire qu'on va participer à un échange. Ce n'est pas un combat, mais réellement un échange. On va échanger des points de vue, on va apprendre, on va partager des choses. Et je rejoins Marjorie sur, je pense, ce qu'elle disait tout à l'heure, il faut quand même y aller en confiance, parce que en France, on confond souvent la confiance avec l'arrogance, mais moi je reste quand même sur l'idée que un manque de confiance peut quand même malgré tout être perçu négativement selon le type de poste. Attention, si on est sur un poste où on attend de la personne du leadership, etc. Je ne dis pas que en tant que recruteur, on sait que les gens ont du stress, on sait que les candidats arrivent avec un certain niveau de stress. Donc, il n'y a pas de souci, voilà. Mais je pense qu'il faut quand même cultiver, et ça de façon générale, une petite confiance en soi, savoir qu'on est là parce qu'on est là pour une bonne raison, que ce soit un entretien d'embauche ou autre.
D'ailleurs, pour travailler sa confiance, j'ai un conseil. Il y a plein d'épisodes de Happy Work qui sont consacrés à ça, ma chère Léna.
Donc, exactement.
Ou se faire accompagner par un coach.
Exactement, c'est un excellent conseil.
Alors, ça me fait penser à un truc, je suis obligé de le dire maintenant, sinon je vais oublier, sur les conseils, parce qu'on me pose pas mal de questions. Là, je suis désolé, il y a trop de questions, je ne peux pas toutes les lire, mais sur les entretiens en visio, il y a un petit truc qui est tout bête à faire, les amis. Regardez votre webcam quand vous parlez. Comme ça, la personne a l'impression que vous lui parlez dans les yeux, ce qui n'est pas le cas. Mais dans la vraie vie, on se regarde dans les yeux. Et en visio, c'est impossible, à moins d'avoir un strabisme divergent. Il est fondamental, quand vous parlez, que vous regardiez la webcam. Alors, vous ne voyez pas la personne, vous ne voyez pas ses réactions, mais la personne, ça va lui donner le sentiment vraiment que vous lui parlez à elle. Donc, c'est un petit truc tout simple, tout bête, mais qui fonctionne. Ma chère Marjorie, quels seraient tes petits tips de fin de débat ?
Oui, alors moi, comme j'ai dit, puis Léna, 100% d'accord avec toi, faut reprendre confiance en soi, faut se rendre compte qu'on a déjà passé une étape, donc là, on est sur une autre étape, mais on a déjà passé un palier, et y aller comme vraiment le plus agréable, comme une discussion plutôt qu'un interrogatoire. Ça, j'ai l'impression qu'en France, ouais, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est vraiment beaucoup plus agréable quand vous allez être... dans la situation de driver éventuellement, enfin pas driver, mais voilà, que ce soit plus une discussion que vraiment.
Ouais, j'aime bien ça, l'idée de on y va et on parle à quelqu'un qui est une personne. Enfin, c'est.
Ouais.
Et
bien sûr.
Il faut se mettre dans cet état d'esprit, t'as raison.
Ouais, c'est ça. Puis la personne en face de soi, elle a aussi passé des entretiens.
Non, mais c'est
dans
ça.
Dans sa vie. Ouais, exactement. Puis juste un petit dernier aussi, je ne sais pas si vous avez écouté ce TED Talk de Amy, j'ai oublié le nom de famille, qui parle des positions Superman ou Superwoman avant quelque chose de stressant en fait. Donc un entretien, recrutement ou peu importe avec son manager. Donc, de faire des pauses de Superman, Superwoman, 10 secondes,
mais non.
2 fois, 3 fois, 10 secondes. Ah, ouais.
C'est vrai.
Et en fait, ça marche. C'est... Ouais. Il y a des études qui ont. Elle a fait justement, elle présentait son étude dessus. Et en fait, ça permet de prendre confiance en soi et encore une fois de se positionner. Donc, pas de manière arrogante, mais juste, voilà, voici ce que j'ai à présenter, voici qui je suis, voici ce que j'ai à apporter. Et discutons.
Ah, c'est excellent, j'adore.
Alors, je vous invite à aller voir ce TED Talk, c'est génial.
Ne pas prendre la posture Wonder Woman pendant l'entretien, on est d'accord.
Ouais, on la prend avant, puis on y va avec le flow après.
C'est mieux. Merci pour ce petit tips, Marjorie. Mon cher Alexandre, est-ce que toi, alors on est vraiment vers la fin, donc tu ne vas pas avoir beaucoup la parole, est-ce que tu as un petit conseil comme ça, parce que tu es quelqu'un qui a la communication extrêmement facile, est-ce que tu auras un conseil pour des entretiens avec son manager ou entretien de recrutement ?
Alors, je vais me permettre et je vais faire très rapidement, boss, parce que j'avais déjà écrit avant le début de ton podcast. Je pense que mesdames DRH et RH qui sont présentes vont peut-être me sauter au cou. Mais moi, je vais plutôt revenir sur l'entretien de recrutement. Comme tu le disais, Gaël, justement, quand on était en manque de travail, avant, l'entretien de recrutement, c'était un rendez-vous avec un RH ou un DRH qui tentait de comprendre ta carrière et les adéquations entre ton CV et les attendus du poste auquel tu répondais. Aujourd'hui, quand tu parles d'entretien de recrutement, c'est quoi ? C'est du n'importe quoi parce que tu as des candidatures simplifiées sans avoir besoin de lettre de motivation. C'est 3 rendez-vous, un avec le recruteur, un avec le CEO, un avec le manager. Et pour ceux qui sont les plus chanceux, il y en a qui vont passer des tests de conditions réelles, ce qui correspond à un grand n'importe quoi. Donc, si tu veux, dans le discours de l'entretien de recrutement aujourd'hui, moi, je vais rester basico-basique et je vais rester vieille France. Et comme tu le disais, c'est me présenter face à un recruteur, un DRH, un CEO, très bien habillé, avec des connaissances sur la société à laquelle j'ai envoyé ma candidature pour pouvoir répondre à ces questions. Néanmoins, je refuserai cette nouvelle politique où indirectement tu es exploité quand on te demande de faire un test en conditions réelles parce que tu n'es déjà pas salarié de la société et faire du travail gratuit, je trouve que c'est inacceptable. Je te remercie.
Merci beaucoup, Alexandre. C'est toujours très intéressant, tes interventions. Donc, mille merci. Alors, en avant-dernier, c'est à Béatrice que je vais poser la question, mais je vais quand même, j'ai reçu un mail, je suis obligé, j'ai failli tomber de ma chaise, je dois bien vous avouer. Et Béatrice, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est Franck qui m'a envoyé cette news. Je la lis telle qu'elle. Depuis quelques semaines, je vois pas mal d'articles et de posts sur le sujet des entreprises qui proposent jusqu'à 500 euros pour passer un entretien de recrutement. C'est-à-dire que des entreprises galèrent tellement pour recruter qu'elles sont prêtes à payer des candidats. Est-ce que tu es tombée de ta chaise, Béatrice ?
Disons, j'ai pas vu ces posts-là, donc je suis un peu surprise. Disons, je sais pas, mais alors pour le coup, j'ai aucun avis parce que je sais pas. Ça paraît étrange, hein, je trouve, je suis un peu, tu vois, là, je bafouille. Ça me semble absurde.
J'étais obligée de te partager ça parce qu'en tant que je savais que ça allait te parler. Alors, toi, ton petit dernier conseil, ma chère Béatrice.
Ouais, alors, moi, en fait, mon petit dernier conseil, c'est juste pour revenir tout à l'heure sur un truc où tu as dit à un moment donné, parler. Enfin, on va laisser. C'était quelqu'un qui posait la question en disant que répondre quand on dit parlez-moi de vous. Mmh. Et tu as dit ça on passe parce que ça globalement on sait, et ça je pense que c'est difficile quelquefois pour un certain nombre de personnes de parler d'elles. Et moi ce que j'aurais tendance à dire, comme c'est au départ finalement, ça va être un peu le début de l'entretien, je pense qu'il faut peut-être juste s'écrire peut-être avant l'entretien 3-4 phrases qui peuvent être des phrases d'intro, simplement pour s'en souvenir. Ça va nous aider quand on les écrit, on se les formule, donc du coup après peut-être se les dire, ça peut paraître ridicule, mais se les dire juste devant une glace.
En fait, c'est de pitcher son CV, d'écrire le pitch
mais même,
son CV.
Même très court.
Ouais.
Même très court, je dirais juste pour une introduction. Et aussi, savoir se taire. C'est-à-dire que quand on a parlé, qu'on a répondu à une question du recruteur ou de la recruteuse, ben c'est s'arrêter une fois que une fois qu'on a répondu, on s'arrête.
Bien sûr.
Et soit on a peur des silences dans un entretien, et ben quand du coup on a peur des silences, on essaye de combler le silence, et là on peut partir
complètement
dans n'importe quelle direction. Donc ça serait ça aussi mon deuxième tip. C'est à la fois un, de préparer ses premières phrases, et deux, d'accepter de se taire quelquefois et les silences.
Et voilà, je vais rebondir sur ce que tu dis, ma chère Béatrice. Il faut aussi donner du grain à moudre au recruteur qui, lui aussi, parfois peut avoir peur du silence et ne sait pas quoi demander au candidat. Moi, je vais donner un exemple. Dans mes entretiens, quand j'étais jeune diplômé, je parlais systématiquement, à un moment ou un autre, du fait que j'étais maître de jeu de Donjons et Dragons. Pourquoi ? Parce que c'était cohérent par rapport au métier que je faisais, qui était des métiers créatifs, mais surtout, les gens, ça les interpelle, et c'est à partir du moment où on commence à parler de passion, de trucs dans le genre, c'est toujours une bonne chose. Donc, pensez aussi à ce qui peut intéresser la personne, ce qui peut l'interpeller, ce qui va faire votre différence. Ma chère Géraldine, eh bien, c'est toi qui vas avoir le dernier mot avant le petit mot de Philippe Elie sur ses dessins. Ma chère Géraldine, un petit dernier conseil.
Oui, alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et j'avais envie de dire aussi respirer. C'est comme quand on monte sur scène, avant de rentrer dans une salle d'entretien, que ce soit avec son manager ou un recruteur, respirer. Et en fait, la respiration, le fait de respirer, eh ben en fait, ça va abaisser, ça va baisser votre trac. Et n'hésitez pas non plus, une fois que vous avez salué votre recruteur et que vous allez vous asseoir sur une chaise, au lieu de tout de suite commencer à parler, laissez le silence faire. Et respirer. Et ça, c'est important parce que plus vous allez prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous mettre en place dans cette situation d'entretien, d'échange, de discussion, parce qu'en fait, c'est une discussion, mieux ça va se passer. Et puis, mon deuxième tip, c'est oui, c'est un échange et une discussion. Et même si vous n'avez pas le poste, forcément, ça aura été enrichissant. Que forcément, vous allez recevoir des feedbacks qui vont vous faire grandir. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très positif, donc à chaque fois, je vois plutôt le verre à moitié plein. Mais l'échange que vous allez avoir, que vous ayez le poste ou pas, va vous faire grandir. Voilà, et va renforcer votre confiance en vous. Donc, allez-y, respirez et laissez faire. Ça va bien se passer.
Eh ben, super conseil. Alors, mon cher Philippe Elie, donc Philippe Elie Kassabi.
Oui.
Est-ce que tu as été inspiré par le thème d'aujourd'hui ?
Oui, pas mal. Si vous allez voir un petit peu mon profil, vous allez voir plein de petits dessins que j'ai pu illustrer au fil de l'eau. N'hésitez pas à les liker, les commenter surtout, parce que c'est aussi, j'attends aussi vos retours. Et l'équipe aussi attend vos retours par rapport aux dessins. N'hésitez pas à augmenter les dessins, rajouter des choses, donner votre avis et les partager parce qu'ils sont là pour ça.
Bon.
Merci Gaël pour cette,
je t'en prie. Cette belle... Eh bien les amis, ça y est, c'est la fin de ce débat. Mille merci d'y avoir assisté. C'était, comme d'habitude, très intéressant. Merci aux Happy Workers d'avoir été là, comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des messages. Je suis désolé, je ne peux pas tous les lire. Il y en a beaucoup trop, donc je vais en lire un certain nombre. Merci Elisabeth, merci Catherine, merci Benoît, merci Christian. Ça y est, j'ai perdu ma liste. Merci Evelyne, merci Olivier, merci Franck, merci Karen, merci Esna, merci Monia, merci Christian, merci Pierre, merci Louise, merci Mira, merci Nouma, merci Antoine, merci Constantin, merci Karine, merci François, merci Laurence, merci Abdoulaye. Voilà, et vous avez vu, j'ai quand même du souffle quand même pour lire tout ça. Les amis, je vous remercie mille fois. Donc, ce débat sera en replay sur Happy Work samedi matin prochain. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Happy Work, parce que Happy Work, je le rappelle, c'est une quotidienne. Et rendez-vous à la semaine prochaine, même lieu, même endroit, même heure, pour un autre débat dont le sujet n'a pas été encore déterminé. Et je finirai ce débat comme je finis chacun des épisodes de Happy Work par vous dire une phrase que j'aime beaucoup, plus que jamais, prenez soin de vous. Au revoir.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further.
Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.